Laudetur Jesus Christus.
Alerte anti-aérienne cet après-midi dans le nord d'Israël après des tirs de missiles iraniens. Un hôpital a été touché dans le sud de l'État hébreu. En représailles, Israël menace une nouvelle fois l'ayatollah Khamenei. L'archevêque de Téhéran appelle les deux parties à retourner à la table des négociations. Mais quelle chance pour la diplomatie dans ce chaos. Les ministres des Affaires étrangères britanniques, allemands et français vont rencontrer leur homologue iranien demain à Genève. Les détails juste après les titres. L'Irak, voisine de l'Iran, se retrouve piégé. Malgré son opposition, son espace aérien est régulièrement violé. Mais sa sécurité dépend, nous l'entendrons, essentiellement des États-Unis. Et puis la Colombie envoie de réformer son droit du travail. Le Sénat adopte un projet de loi soutenu par le président de gauche qui prévoit de raccourcir considérablement les horaires de travail.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonsoir à tous. Les frappes et les menaces se multiplient entre l'Iran et Israël. Des sirènes anti-aériennes ont de nouveau retenti dans l'après-midi au nord d'Israël. Dans le sud, l'hôpital de Be'er Sheva a été touché par des missiles iraniens. Une dizaine de personnes ont été blessées. De jour en jour, la rhétorique israélienne s'endurcit. Le guide suprême iranien Ali Khamenei ne peut être autorisé à continuer d'exister, a déclaré ce jeudi le ministre de la Défense de l'État hébreu. La communauté internationale, elle, continue d'appeler à la désescalade. L'ONU déplore les dommages collatéraux auprès des civils. La Croix-Rouge demande de respecter les hôpitaux. Et certains pays européens cherchent une solution diplomatique au conflit. Bonsoir Myriam Sandouno.
Bonsoir Alexandra.
La chef de la diplomatie de l'UE ainsi que les ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni rencontreront demain à Genève leur homologue iranien.
Oui, la tentative de médiation et l'effort des Européens pour arracher une solution diplomatique et ne pas laisser Donald Trump être le seul maître du calendrier semble se mettre en place. L'objectif des Européens est d'obtenir de la part de l'Iran des garanties quant à la nature exclusivement civile de son programme nucléaire. Téhéran a accéléré sa production d'uranium hautement enrichi depuis plusieurs années au point d'être soupçonné de vouloir le faire à des fins militaires. L'Iran enrichit son uranium à un niveau bien supérieur à la limite de 3,67% fixée par un accord international de 2015, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Union européenne étaient toutes signataires. Les conséquences donc de la guerre en cours entre l'Iran et Israël sont tragiques, en témoigne l'archevêque de Téhéran qui déplore les victimes dans les deux camps et parle d'une guerre inutile. Il exhorte à des négociations et assure de ses prières pour la paix.
Merci Myriam Sandouno. Les attaques israéliennes condamnées par la Russie et la Chine, les dirigeants des deux superpuissances ont échangé par téléphone ce jeudi, ils appellent à un cessez-le-feu. Moscou met également en garde Washington contre toute intervention militaire. Dans cette guerre, un pays de la région est lui plus que tiraillé. C'est l'Irak, voisin de l'Iran. Son espace aérien est utilisé par les avions israéliens pour aller bombarder des cibles iraniennes. Une situation intenable pour Bagdad, alors que le pays reste fortement dépendant des États-Unis, tant sur le plan sécuritaire qu'économique. Les précisions de notre correspondante en Irak, Anne-Sophie Le Mouf.
Depuis le 13 juin, l'espace aérien irakien s'est mué en une zone de transit pour missiles israéliens et iraniens. L'Irak a déposé la semaine dernière une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU condamnant la violation de son espace aérien par Israël et son utilisation pour mener des attaques militaires contre l'Iran, son principal allié. Les autorités irakiennes ont par ailleurs appelé les États-Unis à remplir leurs obligations au titre des accords bilatéraux et des conventions internationales pour empêcher de telles violations. À l'heure actuelle, l'Irak dispose d'une faible marge de manœuvre et la raison est simple. Espace aérien irakien et compte en banque placé aux États-Unis sont entièrement sous le contrôle de Washington. Un député irakien de la commission Sécurité et Défense a accusé hier les États-Unis d'empêcher l'Irak de se doter d'un système de défense anti-aérien moderne. L'élu a révélé qu'un contrat de 2,7 milliards de dollars avait été signé avec la Corée du Sud et que la livraison du système destiné à intercepter les avions et missiles hostiles n'avait toujours pas été livrée en raison d'une opposition américaine. à Bagdad, Anne-Sophie Lemauve pour Radio Vatican.
Parallèlement, la violence continue à Gaza. La défense civile palestinienne a annoncé que 76 personnes, dont 21 venues chercher de l'aide humanitaire, avaient été tuées par l'armée israélienne ce jeudi. Nouvel échange de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie. Dans le cadre de l'accord conclu le 2 juin à Istanbul, plusieurs soldats détenus de part et d'autre de la frontière ont pu rentrer chez eux. Le nombre exact n'est pour le moment pas connu, mais côté ukrainien, il s'agit pour la plupart d'hommes qui avaient été faits prisonniers en 2022. À l'est de l'Ukraine, l'église toujours au chevet des victimes. Témoignage de l'évêque catholique de Kharkiv, de passage à Rome, où il a rencontré à l'issue de l'audience générale de ce mercredi le pape Léon XIV. Dans un long entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet, l'évêque ukrainien décrit l'intensification des frappes, les cimetières qui s'agrandissent, l'omniprésence de la mort, mais aussi l'ampleur des blessures spirituelles dont souffrent les soldats. Une adresse pour en savoir plus à vaticannews.va. On change de continent à présent, direction la Colombie. Le Sénat a adopté mardi soir une réforme qui pourrait changer la vie de millions de travailleurs colombiens. La nouvelle loi, projet phare du président de gauche Gustavo Petro, prévoit notamment de faire du CDI, contrat à durée indéterminée, la norme en Colombie. Les précisions de William Gazo.
La victoire était inespérée pour Gustavo Petro. Elle est finalement arrivée mardi soir. Par 57 voix contre 31, les sénateurs colombiens ont adopté la réforme du droit du travail, l'une des plus importantes promesses de campagne du président de gauche. Le texte voté par le Sénat prévoit notamment que le travail nocturne, dont les heures sont 35% mieux payées, commence à 19h au lieu de 21h. Le paiement additionnel pour les travailleurs du dimanche et des jours fériés passe également à 100% au lieu de 75% actuellement. La réforme fait aussi du contrat à durée indéterminée la norme en droit du travail colombien et supprime les contrats à l'heure accusés de précariser les travailleurs. D'autres mesures prévoient également d'étendre ces contrats aux travailleurs de secteurs informels, aux femmes chefs de famille ou encore aux jeunes en apprentissage. Le vote du texte ponctue en tout cas plusieurs mois d'affrontement entre l'exécutif et le Sénat, qui avait dans un premier temps rejeté la réforme. Gustavo Petro avait alors menacé d'organiser un référendum pour court-circuiter le Parlement, une mesure que de nombreux experts jugent contraire à la Constitution. Malgré le vote du lundi, Petro n'exclut toujours pas cette possibilité. La réforme doit encore faire l'objet d'une conciliation entre les deux textes adoptés au Sénat et à la Chambre des représentants et qui diffèrent en certains points. Une ultime étape qui pourrait changer au dernier moment le contenu de la réforme et potentiellement frustrer le président de gauche. Bogota, William Gazo pour Radio Vatican.
Et un peu plus au nord de la côte pacifique, l'ouragan Eric a touché la côte sud-ouest du Mexique jeudi matin avec des vents pouvant souffler jusqu'à 205 km/h. Le Vatican célèbre ce jeudi la solennité du corps et du sang du Christ. Une messe est en cours actuellement à Saint-Pierre. À cette occasion, le pape Léon XIV a transmis un message sur ses réseaux sociaux que la solennité du Corpus Domini renouvelle notre foi dans le Seigneur, réellement présent parmi nous sous les espèces du pain et du vin. Ce dimanche à 17h, le pape Léon XIV présidera une messe dans la basilique Saint-Jean de Latran à Rome. Elle sera suivie de la procession eucharistique allant jusqu'à la basilique Sainte-Marie-Majeure où repose François. C'est un jour donc férié au Vatican, mais cela n'a pas empêché le Saint-Père de faire une visite surprise dans la matinée à quelques kilomètres dans le nord-ouest de Rome, à Santa Maria di Galleria, où se trouve le centre émetteur de Radio Vatican. Et Léon XIV a souligné combien, au cours de son travail missionnaire en Amérique latine et en Afrique, il était, je cite, précieux de pouvoir recevoir les transmissions en ondes courtes de Radio Vatican qui atteignent des endroits où peu de radiodiffuseurs peuvent se rendre. Avant de clore ce journal, cet appel à la générosité pour le denier de Saint-Pierre.
À petits pas, le pape Léon XIV se présente au monde.
La paix soit avec vous.
Et à partir de ce moment, ses pas sont aussi les nôtres.
Je viens à vous comme un frère qui veut se faire le serviteur de votre foi et de votre joie.
Avec votre don pour le denier de Saint-Pierre, vous soutenez concrètement les pas du Saint-Père. Vous l'aiderez à annoncer l'Évangile dans le monde et à tendre la main aux frères et sœurs dans le besoin.
Frères et sœurs, c'est l'heure de l'amour.
Soutenez les pas de Léon XIV, faites un don au denier de Saint-Pierre. Allez sur le site www.obolodisanpietro.va.
C'est la fin de ce journal. Merci pour votre écoute. L'actualité en langue française revient, elle, à 8h30, heure de Rome, demain matin. D'ici là, belle soirée à toutes et à tous.